France Info.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Les résultats du bac 2019 seront donc dévoilés demain dans toute la France. Savez-vous combien de copies manqueront à l'appel à cause de la grève des correcteurs ?
On aura un point en fin de matinée. Hier soir, on a fait un point. On était à peu près à 80 000 copies manquantes, ce qui veut dire que ça a diminué de moitié en même pas 24 heures.
80 000 sur un total d'environ 4 millions.
Voilà. Et donc là, on sera, on espère, a priori, en dessous des 50 000 aujourd'hui. Donc c'est une difficulté qui est réelle, qui cause du stress aux candidats. Et moi, c'est à eux que je veux penser, à leurs familles qui attendent leurs résultats avec une bonne dose de stress, comme c'est toujours le cas dans le baccalauréat. L'objectif, c'est évidemment que ça ne leur soit pas préjudiciable.
Vous reconnaissez que vous vous êtes trompé sur cette affaire. Toute la semaine, Jean-Michel Blanquer avait expliqué que ça n'aurait pas de conséquences.
Écoutez, on a fait le pari de la confiance et de la sérénité avec les enseignants. Et moi, je vais insister sur le fait que l'écrasante majorité des professeurs joue le jeu, même si certains peuvent avoir des doutes. Au fond, on peut pas pénaliser des élèves, des candidats que les professeurs ont préparé eux-mêmes pendant toute l'année à cette épreuve qui est extrêmement importante pour eux. Et moi, je veux vraiment insister là-dessus, saluer le corps professoral dans son ensemble qui s'est mobilisé, parce qu'il faut pas que cette situation, elle jette l'opprobre sur toute une profession. On nous avait expliqué d'abord qu'il y avait un risque que les épreuves ne puissent pas se tenir, qu'il y ait pas suffisamment de surveillants dans ces épreuves. Ça s'est déroulé dans de bonnes conditions parce qu'on s'est mobilisé. Et là, on se mobilise pour que les résultats arrivent dans des conditions de sérénité.
Renaud Dely.
Alors Gabriel Attal, vous le disiez, il reste quand même un risque que demain, quelques milliers de copies ne soient pas notées et rendues, que ces résultats ne soient pas communiqués aux candidats. Votre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, eh bien, il pense avoir trouvé la parade.
Pour le cas où il y aurait encore quelques notes manquantes, ce qui arrive à chaque session du baccalauréat, parce que parfois vous avez des pertes de copies, vous avez des problèmes pratiques, dans ces cas-là, la solution que l'on retient, c'est de donner la note de contrôle continu de l'année de l'élève. C'est donc ce que l'on fera. Elle sera donnée à titre provisoire vendredi, ce qui permettra à l'élève d'avoir son résultat. Si en début de semaine, on a finalement la copie et que la note est meilleure, c'est cette note-là qui sera retenue. Mais sinon, c'est la note provisoire qui sera la note définitive.
C'est un peu acrobatique, non? C'est du bricolage, cette solution, Gabriel Attal?
On répond à une situation exceptionnelle par une mesure exceptionnelle, mais qui, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer, est appliquée, par exemple, quand un paquet de copies est perdu, ce qui peut arriver. L'important, encore une fois, c'est la sérénité des candidats et que ça ne soit pas eux qui portent le préjudice de cette action extrêmement marginale de professeurs qui ont décidé de faire payer aux élèves leur mobilisation, qui est parfois politique. Donc oui, on prend cette mesure qui est exceptionnelle et on la prend de manière à ce que ça ne soit pas préjudiciable pour les élèves. En gros, aucun candidat au baccalauréat ne pourra apprendre par exemple qu'il a le baccalauréat vendredi pour apprendre finalement qu'il ne l'a pas.
Non, mais il y en a par exemple qui vont passer le rattrapage alors qu'ils n'auraient pas dû. Ça, c'est possible.
Ça sera peut-être le cas dans certains cas marginaux, mais encore une fois, il vaut mieux ça plutôt que l'inverse. Il vaut mieux ça plutôt que des élèves qui...
On n'aurait pas pu repousser l'annonce des résultats de quelques jours.
Je pense que vous pouvez interroger des candidats au baccalauréat et leur famille.
Mais j'interroge pas les candidats, j'interroge le ministre.
Là, en plus, vous faites payer à l'ensemble des candidats, encore une fois, une action qui concerne 2% des correcteurs. C'est pas 2% des correcteurs qui peuvent bloquer les résultats du baccalauréat pour 800 000 composants.
Et quelles sont aujourd'hui les académies les plus touchées potentiellement par ce mouvement ?
Les académies les plus touchées sont les académies d'Île-de-France. Donc Créteil, Versailles, Paris, c'est celle qui concentre le plus de, qui concentrait en tout cas au début du mouvement le plus de retard. Mais encore une fois, les copies et les notes remontent très vite depuis 24 heures. Donc on a bon espoir que les choses puissent rentrer dans l'ordre rapidement.
Alors voici justement ce qu'en dit une enseignante gréviste, enseignante en mathématiques en Île-de-France. Elle était ce matin sur France Info. Elle s'appelle Sakina.
C'est un tour de passe-passe pour essayer de respecter l'engagement qu'il a pris lundi sur l'apparition des résultats vendredi. C'est encore une fois pour essayer d'invisibiliser nos luttes de toute l'année et pour essayer de satisfaire l'opinion publique.
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple et plus sain de rétablir le dialogue avec les syndicats?
Mais le dialogue, il n'a cessé d'avoir lieu. Cette réforme du lycée...
À quand remonte la dernière réunion avec les syndicats d'enseignants?
Je pense qu'il y a plusieurs mois maintenant. Mais je veux dire, la réforme, elle date quand même maintenant d'il y a plus d'un an.
Mais vous entendez que ça coince.
Mais il y a un rapport qui a été rédigé par Pierre Mathieu, qui est une figure qui fait autorité dans le milieu de l'éducation nationale, qui a consulté l'ensemble des syndicats et qui a remis un rapport avec ses propositions pour réformer le lycée, le baccalauréat. Ce rapport a été reçu par Jean-Michel Blanquer il y a maintenant plus d'un an. Ensuite, il y a eu des concertations avec les syndicats, les représentants des professeurs, par Jean-Michel Blanquer, sur cette réforme, qui a aussi été construite avec une consultation numérique où 40 000 lycéens ont donné leur avis, ont fait des propositions, ont dit parfois leurs inquiétudes sur certaines pistes. Et à partir de tout ce travail, il y a une réforme qui a été construite. À un moment, la réforme, il faut l'appliquer. Et moi, j'y crois.
Vous ne bougerez plus sur cette réforme?
Non, la réforme, elle a commencé à être appliquée. Les jeunes qui sont
rien n'est négociable à présent.
Les jeunes qui sont aujourd'hui en seconde ont choisi les spécialités, les matières qui seront les leurs en première et en terminale. La réforme, elle avance. Encore une fois, on sort d'un système où on avait ces trois filières S, E, S, L qui étaient devenues des espèces de silos où on rentrait, dont on ne pouvait plus sortir, qui correspondaient plus vraiment à la réalité des choses. La filière S, scientifique sur le papier, était devenue dans l'imaginaire collectif la seule filière d'excellence au lycée, avec des jeunes, plus de la moitié des jeunes qui rejoignaient cette filière S, alors même que plus de la moitié d'entre eux ne se destinaient pas à des carrières scientifiques. Donc ça n'avait plus grand sens.
Vous dites, Gabriel Attal, les discussions, c'est fini maintenant, la réforme du bac, on l'applique, mais est-ce qu'il y a une forme d'expérimentation? C'est-à-dire, ce choix de spécialité, il inquiète aussi certains parents et certains élèves, ça va être une réforme, un système radicalement différent. Est-ce que à la marge, ce serait encore modifiable si jamais la première année s'avère plus compliquée que prévu?
D'abord, nous on est pragmatiques, donc on regarde toujours quand on met en place une réforme comment elle s'applique et il peut y avoir des corrections. Évidemment, moi ce que je constate dans les échanges que j'ai à la fois là où je suis élu dans les Hauts-de-Seine, mais aussi dans les discussions que j'ai dans mes déplacements en province chaque semaine où la question elle est revenue souvent ces derniers mois sur le nouveau lycée et le baccalauréat, c'est que finalement les inquiétudes ont été pour beaucoup rassurées parce que les jeunes ont vu qu'il y avait des spécialités qui étaient présentes partout, que partout, dans tous les lycées en France, il y a plus de choix et plus de possibilités.
Tous les jeunes, sans exception, peuvent avoir accès aux disciplines, aux spécialités de leur choix.
Tous les jeunes, aujourd'hui, ont accès à plus de choix qu'ils n'en avaient avant dans leur lycée. Vous aviez beaucoup de lycées en France avant, vous n'aviez pas les trois filières S, E, S, L. Aujourd'hui, vous avez dans tous les lycées de France plus de matières.
Il n'y aura pas l'ensemble des spécialités dans l'ensemble des établissements, on sait aussi.
Non, ouais. Il n'y a pas l'ensemble dans tous les établissements. C'est pour ça qu'on a fait en sorte, un, de garantir que les différentes spécialités soient accessibles, c'est-à-dire que un élève puisse aller dans un autre lycée suivre une spécialité qui lui tient à cœur. Deux, qu'il puisse y avoir des suivis de spécialités à distance. On a beaucoup travaillé avec des grands professeurs pour que certaines matières puissent être accessibles à distance. Et trois, pour que les spécialités attractives soient mises en place dans des établissements dont on considère qu'ils sont moins attractifs que les autres. Parce que c'est important que ces établissements-là puissent être renforcés par l'arrivée de nouvelles spécialités. Il y a de très belles spécialités, je pense notamment à l'informatique et au numérique, qui sont accessibles aujourd'hui dans beaucoup d'établissements.
Gabriel Attal, vous restez avec nous, on va parler dans la deuxième partie de cet entretien, notamment de votre bébé, le service national universel, qui a été expérimenté cette année, il y a quelques semaines. C'est en cours d'ailleurs l'expérimentation, ça continue en ce moment même. Mais d'abord, le résumé de l'actualité à 9h20, David Doba.
De l'humour qui passe mal, le président du groupe Modem à l'Assemblée a écrit hier à Stanislas Guérini, patron des Marcheurs, pour lui faire part de sa stupéfaction. Il proteste contre la tenue d'un séminaire LREM le week-end dernier dans lequel le parti centriste aurait été moqué. Pour le secrétaire général du SNES FSU, la mesure n'a aucun sens. Pour contrer les professeurs grévistes qui menacent de retenir les copies du bac, Jean-Michel Blanquer annonce que les notes du contrôle continu seront provisoirement prises en compte. Cela pourrait concerner jusqu'à 50 000 personnes au total. La circulation des TGV Paris-Milan suspendue jusqu'au 31 juillet après la coulée de boue qui a causé de gros dégâts hier entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane, c'est en Savoie. Les clients munis d'un billet peuvent d'ores et déjà demander un remboursement. Plus d'un million d'habitants appelés à évacuer au Japon. Les pluies diluviennes s'abattent sur le sud-ouest du pays. Une personne a été tuée. L'année dernière, ce sont 200 personnes qui avaient perdu la vie dans des inondations similaires. Et puis, l'insolente santé du luxe se confirme encore un peu plus. Bernard Arnault et sa famille en tête du classement des plus grandes fortunes de France, publié comme chaque année par l'hebdomadaire Challenge. En progression de 16% par rapport à l'an dernier, sa fortune est estimée à près de 90 milliards d'euros.
France Info. Toujours avec le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, et toujours au sujet du bac, décidément perturbé cette année par des fuites sur plusieurs épreuves. D'abord, est-ce que vous avez réussi à déterminer d'où elles venaient, ces fuites sur les sujets?
Alors, il y a une enquête judiciaire qui est en cours, qui vise à le déterminer. Il y a un certain nombre de candidats.
Vous n'avez pas identifié la source pour l'instant?
Pas encore. C'est l'enquête qui doit le déterminer. Moi, j'ai pas d'informations particulières. C'est la justice qui est en train de faire son travail. Et évidemment, l'objectif, c'est trouver la source et puis qu'il y ait des sanctions le cas échéant.
Jean-Michel Blanquer avait évoqué au départ des fuites qui ne concernaient que 3 ou 4 établissements d'Île-de-France. Il y a eu des interpellations cette semaine en Île-de-France, mais aussi à Marseille. Ça veut dire que ces fuites, notamment concernant le sujet de maths, bien elles sont plus importantes que vous ne l'aviez envisagé au début ?
Là encore, il y a une enquête, donc moi je me prononcerai pas. C'est l'enquête judiciaire qui détermine les mesures à prendre pour regarder si la fuite a été plus importante que prévu. Moi, je suis très prudent, je fais très attention à pas faire de déclaration. C'est pas mon rôle, c'est pas moi qui suis chargé de l'enquête. Encore une fois, c'est visiblement des fuites qui ont été assez marginales, qui ont concerné assez peu de candidats. Mais il faut trouver la source parce qu'il faut pas que ça se reproduise, parce que c'est ça peut être une rupture d'égalité pour des jeunes, et donc il y aura évidemment des sanctions.
Que risquent ceux qui seront pris le doigt dans le pot de confiture?
Encore une fois, ça dépend de comment est-ce qu'ils ont été concernés. C'est-à-dire entre avoir organisé une fuite, avoir
diffusé... Pour ceux qui ont relayé, notamment, c'est une question qui se pose. Il y a ceux qui ont fait fuiter à l'origine, mais ceux qui se sont contentés, entre guillemets, de relayer un message sur les réseaux sociaux. Vous considérez qu'ils sont autant coupables que ceux qui ont fait fuiter?
Alors là, encore une fois, c'est des sanctions disciplinaires et c'est pas ni le ministre ni le secrétaire d'État qui les décide arbitrairement. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction de composer pour le baccalauréat pendant une ou plusieurs années. Donc tout ça, ça va être regardé au cas par cas. Encore une fois, il y a une enquête judiciaire, il faut rester serein.
Renaud Dely.
Vous avez porté, et vous portez toujours, la réforme du service national universel, Gabriel Attal, une réforme qui a été expérimentée ces dernières semaines par un peu plus de 2000 jeunes volontaires un peu partout en France. On a vu ces scènes, le lever des couleurs, la Marseillaise, le port d'un uniforme, qui ont parfois été moqués. Est-ce que le SNU, c'est d'abord une façon de satisfaire ceux qui sont nostalgiques du service militaire?
Non, moi je vois pas du tout les choses comme ça. Et je m'étonne toujours qu'on considère que le drapeau français, la Marseillaise, ce serait réservé aux militaires. Quand il y a un match de foot de l'équipe de France pendant une Coupe du Monde, tout le monde chante la Marseillaise.
Il n'y a pas d'obligation à chanter la Marseillaise sur un terrain de foot, ni dans les tribunes, alors que là, c'est obligatoire.
Mais le symbole lui-même n'est pas réservé aux militaires, c'est un symbole patriotique. Et le service national universel a cette dimension patriotique, c'est symbole républicain, c'est valeur républicaine, et moi, je l'assume parfaitement, parce que c'est aussi autour de ces symboles que se fait la cohésion entre les jeunes. Et je l'ai vu. Moi, j'ai fait mon service, en quelque sorte. J'ai fait les 13 centres en 12 jours. Je me suis déplacé
Vous l'avez fait
en itinérant. Enfin, j'ai dormi dans les dortoirs, j'ai dormi dans des chambrées, je me suis levé à la même heure. J'ai vécu cette expérience. Et ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes ont vécu cette cohésion autour de ces symboles.
Et le SNU est indispensable pour ça. Vous, par exemple, Gabriel Attal, du fait de votre âge, vous n'avez pas fait votre service militaire, évidemment. Mais pour autant, vous êtes un bon patriote pétri de valeurs républicaines.
Oui, mais je vais vous dire, moi, j'aurais aimé avoir un moment qui m'aurait permis de rencontrer des jeunes qui viennent d'autres horizons, y compris d'autres horizons géographiques. L'école, ça doit être le lieu de la mixité sociale. On rencontre des jeunes qui viennent d'autres milieux sociaux. Mais il y a aujourd'hui une ségrégation territoriale. Il y a aujourd'hui une assignation à résidence chez beaucoup de jeunes. Vous savez, j'ai rencontré les 2038 jeunes qui étaient dans cette phase pilote. La grande majorité d'entre eux prenaient le TGV pour la première fois, allaient dans un autre territoire pour la première fois. Et pour beaucoup d'entre eux, même si c'était des volontaires, c'était une épreuve. C'est la première fois qu'ils quittaient le domicile familial, qu'ils avaient finalement ce dépaysement. Et je pense que c'est très important aussi dans la construction des jeunes. Vous avez encore trop de jeunes aujourd'hui qui font leur choix d'orientation, leur choix de formation en se limitant à ce qui existe autour d'eux et qui se ferment des portes parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience de mobilité. Et le service national, c'est aussi cette expérience qui permet de montrer, de vivre le fait que on peut partir de chez soi pendant un temps pour ses études, par exemple, pour mieux revenir ensuite, et que donc les jeunes ont aussi vocation à pouvoir bouger sur le territoire.
On est à 2000 volontaires cette année. Combien il y en aura l'an prochain?
L'objectif, c'est d'en avoir 40 000.
Tous volontaires encore l'an prochain?
Encore sur la base du
et
volontariat.
Obligatoire à quel terme?
Alors ça, c'est la question qui revient très souvent. Il y a un premier rapport qui avait été remis par le général Daniel Menaouin avant ma nomination au gouvernement, qui proposait un scénario de montée en puissance jusqu'en 2026, avec une généralisation en 2026. Le président de la République m'a demandé de préparer un scénario qui permette d'aller plus vite. Et donc, pour aller
plus vite, est-ce que ça veut dire dans ce quinquennat?
Ça, moi, je n'annonce pas de date aujourd'hui, puisque pour construire ce scénario, je m'appuie évidemment sur la phase pilote qui vient de se terminer, dont on est encore en train de tirer les enseignements. Il y avait des chercheurs, des sociologues qui étaient présents sur tous les centres pour regarder la manière dont les choses se passent. Et donc là, dans les semaines qui viennent, dans l'été, je vais proposer au président, au premier ministre, un scénario avec une date, et donc la réponse à la question que vous posez, et j'espère que je reviendrai rapidement vous l'annoncer.
Et avec quelle addition, quelle facture? 1,6 milliard par an, c'est ça le coût du SNU à terme?
Là, c'est pareil, ça dépendra beaucoup des arbitrages qui sont faits, puisque la phase pilote, elle visait aussi à regarder notre organisation, comment est-ce qu'on peut être plus efficace. C'est un projet qui concernera à terme terme 800 000 jeunes par an.
Et c'est un projet très coûteux. 1,6 milliard par an, est-ce que la France, au vu de l'état de ses finances publiques aujourd'hui, peut se permettre une dépense indispensable pour la France?
Alors, quand on se lance dans un tel projet, je veux d'abord insister là-dessus, on est pragmatique, économe de nos moyens, donc on passe par une phase pilote pour regarder comment être efficace. Et on voit bien qu'on sera bien en dessous de prévisions qui avaient été faites par certains, et notamment des opposants politiques, qui voulaient expliquer que ça coûterait trop cher, qui parlaient de 7 milliards, parfois 10 milliards. On sera bien en dessous de ça, et sans doute en dessous du chiffre que vous avez évoqué.
En dessous d'un
moins milliard 6 par an.
Sans doute, c'est ce qu'on est en train de regarder. Mais moi, ce sur quoi je veux insister, et le président de la République l'a fait systématiquement, c'est que c'est un investissement. Quand on fait un bilan de santé à tous les jeunes, on permet de détecter que des pathologies qui potentiellement se seraient aggravées auraient coûté plus cher à la sécurité sociale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, les 2038 jeunes, ils ont eu tous un bilan de santé. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été détectées et qu'on est heureux qu'ils aient pu avoir accès à ce bilan de santé.
C'est-à-dire que sans ça, ils ne voyaient pas de médecin.
Comment ?
Sans ça, ils ne voyaient pas de médecin. Ils n'avaient pas accès à la médecine.
Ils pouvaient, bien sûr que si, mais pour certains, pour d'autres, ils pouvaient en voir et ne pas aborder un certain nombre de questions avec leur médecin traitant parce qu'ils connaissent leurs parents. Voilà, le fait d'être dépaysé, d'avoir accès à un professionnel de santé dans un autre territoire, ça peut donner confiance aussi à certains jeunes. Voilà, c'est aussi des choses qu'on a observées. Et c'est aussi un projet qui va nous permettre, on l'espère, de lutter contre le décrochage. Il y a environ 100 000 jeunes qui décrochent chaque année, c'est-à-dire qui quittent l'école sans diplôme, sans qualification et sans emploi. Et le service national, il a aussi vocation à permettre à ces jeunes de raccrocher. Un décrocheur, en termes d'accompagnement social à la collectivité, ça coûte, entre guillemets, 240 000 euros par jeune pour son décrochage. Donc, en réduisant le nombre de décrocheurs, en plus de faire du bien pour des jeunes et de permettre de trouver leur voie, on a aussi des économies à terme pour la collectivité.
Donc, le SNU a vocation aussi à réussir ce que l'éducation nationale ne réussit plus à faire aujourd'hui.
Moi, je n'oppose pas les deux et je ne considère pas qu'il faut déverser sur le service national des obligations qui sont celles de l'éducation nationale. Mais je pense que c'est un moment complémentaire. C'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes modalités. C'est un moment de brassage, de dépaysement autour des valeurs de la République avec un certain nombre de formations pour réagir et connaître les réflexes dans une situation et dans un monde où il y a des risques, catastrophes naturelles, attentats terroristes, accidents graves. Les jeunes ont envie d'être formés aussi à ces enjeux-là. Et c'est un brassage territorial qui me semble intéressant. On a vu ces derniers mois dans notre pays le mouvement des Gilets jaunes, avec finalement le sentiment pour des Français d'être assignés à résidence, de pas vivre les mêmes réalités que les autres, le sentiment qu'il y a des fractures dans notre pays. Et il y a des fractures dans la jeunesse. Et pour moi, le service national, c'est un élément qui permet d'y répondre.
Gabriel Attal est l'invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 9h moins 10. David Doba nous rejoint pour le rappel de l'actualité.
Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Le Stromboli est entré en éruption au nord de la Sicile. Une personne a été tuée, des dizaines d'habitants et de touristes évacués. Des témoins parlent d'une véritable pluie de feu qui tombe du ciel. Un demi-siècle après sa disparition, les recherches reprennent aujourd'hui pour tenter de retrouver la Minerve, un sous-marin échoué par plus de 2000 mètres de profondeur au large de Toulon. 52 personnes se trouvaient à son bord le 27 janvier 1968. Il avait coulé 4 minutes après le début d'un exercice. Pas de condamnation unanime après la mort de 44 migrants dans un centre de détention en Libye. Les États-Unis ont empêché son adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU cette nuit. Justement, États-Unis, Pays-Bas, eh bien c'est l'affiche de la finale de la Coupe du monde féminine de foot. Les Néerlandaises sont venues au bout des Suédoises hier soir. 1-0. Et puis Tsonga, Pouille, Barrère et Simon vont tenter de se qualifier aujourd'hui pour le 3e tour de Wimbledon. Et puis chez les femmes, on suivra Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier.
Un mot, Gabriel Attal, du séminaire que votre parti, La République En Marche, a organisé le week-end dernier pour ses futurs candidats aux élections municipales. C'est un document que nos confrères du Parisien, aujourd'hui en France, ont révélé. On y apprend que les futurs candidats doivent jouer une sorte de jeu de rôle. La candidate du Rassemblement National est rebaptisée Jeanne Fachot. Le jupéiste s'appelle Jean Brutus. C'est pas un peu méprisant?
Franchement, moi, j'étais pas à ce séminaire. Donc, j'ai vu le document sur le site du Parisien. C'est un séminaire interne. Je pense qu'il faut un peu se détendre. Hein. C'est quand même pas très grave. Ça a pas vocation, à l'évidence, pas vocation à être diffusé.
C'est raté.
Voilà. Oui, bah voilà. C'est pas. Je pense pas que ça soit une affaire d'État.
Et ça a
franchement
froissé accessoirement, ou pas accessoirement d'ailleurs, vos partenaires du MoDem qui n'ont pas vraiment apprécié qu'on se moque de Marielle de Sarnaise.
Oui, enfin, personne s'est moqué de Marielle de Sarnaise. Enfin, encore une fois, c'est nos partenaires. On a beaucoup de
Jeanne Fachot pour le RN. Ça vous.
Enfin, franchement, c'est un jeu de simulation interne dans le cadre d'une formation. Voilà, j'ai pas de...
C'est pas un peu la politique pour les nuls? Est-ce que ça illustre pas aussi le fait que vous manquez en fait de candidats expérimentés à présenter à ces élections municipales?
Non, ce qui est certain, c'est qu'on est un parti politique nouveau, qu'on va présenter pour la première fois des candidats à des élections locales. Ça veut dire qu'il faut le préparer et qu'on y travaille. Ouais. On nous expliquait au début que les parlementaires de La République En Marche étaient inexpérimentés, qu'ils connaissaient pas le Parlement, etc. Je veux dire qu'on a vu très vite qu'ils travaillent énormément et que finalement tout ça fonctionne parfaitement. Ça va être la même chose avec les municipales.
Justement, pour les municipales à Paris, il y a une compétition interne au sein de La République En Marche pour l'investiture. Elle sera tranchée la semaine prochaine par une commission d'investiture. Il y a l'un des candidats, l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui a rallié un autre candidat, Cédric Villani, le député de l'Essonne, qui est candidat à l'investiture La République En Marche. Pourquoi est-ce que l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, n'arrive pas, lui, à rallier, à rassembler pour être le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris?
Moi, je dirais pas ça. Moi, j'ai plutôt le sentiment, je l'ai soutenu à titre personnel. Je l'ai soutenu à titre personnel. Oui, mais c'est une commission nationale d'investiture qui va décider la semaine prochaine. Donc, je fais aussi attention.
C'est pas plié à l'avance.
C'est dans quelques jours. Non, je crois pas.
Non.
Mais ce que je veux dire, c'est que Benjamin Griveaux, il rassemble aussi des référents de La République En Marche, des différents arrondissements parisiens, des parlementaires. Il y a encore 5 candidats et peut-être que une clarification nouvelle va s'opérer dans les jours qui viennent. Moi, je suis prudent parce que maintenant, il y a la commission d'investiture qui se réunit la semaine prochaine. Les 5 candidats vont être auditionnés. Ils vont tous échanger avec cette commission, en dire sur leur projet, sur leur état d'esprit. Puis la commission va décider. Et dans cette commission, il y a une pluralité de représentants, de responsables. Il y a des marcheurs, des adhérents du terrain. Il y a des référents locaux de toute la France. Il faut laisser cette commission travailler.
Et Emmanuel Macron choisira?
Non, c'est une commission qui choisit. Mmh. C'est une commission nationale d'investiture qui choisit. Je comprends.
Benjamin Griveaux, c'est le candidat d'Emmanuel Macron?
À mon sens, le président de la République n'a pas pris position, et c'est pas son rôle, il est chef de l'État, n'a pas pris position sur cette élection locale.
Donc à Lyon, par exemple, Gérard Collomb n'a rien compris quand il expliquait le week-end dernier que la décision se prendrait à l'Élysée et pas ailleurs.
Il y a une commission nationale d'investiture qui décidera des investitures.
Et moi, Gérard Collomb est mal informé.
Je ne les ai pas entendu ces déclarations, mais à l'évidence.
La loi contre la haine sur Internet est en cours d'examen en ce moment même à l'Assemblée nationale. Elle prévoit d'obliger les plateformes type Amazon, Google ou encore YouTube à retirer en 24 heures les contenus haineux. Il y a d'ailleurs eu une bataille cette nuit sur ce qu'est un contenu haineux dans l'hémicycle. Est-ce que vous espérez faire plier ces géants américains avec une petite loi française ?
Oui, on l'espère, et d'ailleurs un certain nombre de géants du numérique ont déjà annoncé des mesures pour anticiper et pour retirer des contenus, pour faciliter le signalement. C'est extrêmement important. Il y a une étude qui a montré que au premier trimestre 2019, c'est 15% des contenus en ligne qui relevaient de contenus haineux. On voit que c'est massif, et on voit que ça a des impacts pour des jeunes à l'école. Il y a eu un cas gravissime qui a eu lieu.
Une collégienne de 11 ans qui s'est suicidée après, je pense que c'est le cas auquel...
Oui. Dans le Val d'Oise.
Une campagne de harcèlement.
Ouais. Donc il y a une enquête, je ne sais pas si le numérique était concerné dans ce harcèlement, mais on voit que c'est dramatique pour beaucoup de jeunes, que c'est des campagnes en meute de harcèlement qui suivent en dehors de l'école, un harcèlement qui se poursuit quand on est à la maison parce que c'est sur les réseaux sociaux, etc. Et il faut lutter contre ce phénomène.
Justement, est-ce que l'éducation nationale a une mission particulière pour lutter contre ce cyberharcèlement? Jean-Michel Blanquer évoque la nécessité de prendre des mesures. Que peut faire l'éducation nationale pour lutter contre ce cyberharcèlement dont les jeunes sont effectivement souvent les principales victimes?
Bien sûr que l'éducation nationale a un rôle, et j'ai même envie de dire que c'est le rôle central, parce qu'il y a le fait de réprimer les contenus et finalement de sanctionner ceux qui les postent, mais il y a aussi le fait d'éduquer pour que tous les enfants en France comprennent que on peut pas se comporter comme ça et que ça a des conséquences. Et on a beaucoup agi depuis 2 ans sur ce sujet-là. Maintenant, vous avez dans tous les rectorats un référent, un responsable sur les questions de harcèlement, avec une équipe mobile qui peut se déplacer dans les établissements qui sont concernés. Parce que ce dont on se rendait compte, c'est qu'il pouvait y avoir des professeurs démunis face à cette situation et qui ne savaient pas forcément comment la gérer. Donc dans la formation continue des enseignants, on a rajouté des modules sur la gestion du harcèlement. On met en place des équipes qui peuvent soutenir les enseignants dans leurs établissements sur cette question-là. On travaille avec des associations qui peuvent aider les jeunes. Je pense notamment à Net Écoute et autres. Il y a une mobilisation très forte. D'ailleurs, Brigitte Macron se mobilise particulièrement sur ce dossier qu'elle a décidé de prendre en main avec nous. Et donc c'est très important d'insister insister là-dessus. Aujourd'hui, vous avez le G7 de l'éducation qui se tient à Paris avec les ministres de l'éducation des pays du G7 qui sont réunis. Et la France a souhaité que cette question du harcèlement, elle soit au centre de ce G7 éducation. On a souhaité l'organisation d'une conférence mondiale sur le harcèlement l'an prochain parce que de quoi on se rend compte, c'est un phénomène mondial. Dans tous les pays du monde, on assiste à ce phénomène avec le numérique et donc on peut aussi partager les bonnes pratiques.
Est-ce que la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux serait une solution pour vous ?
Moi, je pense que c'est un beau débat, mais je ne suis pas du tout convaincu par cette piste-là. Parce que je pense que l'anonymat, ça permet aussi à des personnes de libérer une certaine parole, de parler de sujets qui sont difficiles peut-être dans leur vie.
Et de proférer parfois des menaces de mort avec la certitude de ne jamais être retrouvé ensuite.
Justement, c'est pour ça qu'on prend une loi, c'est pour ça qu'on travaille avec les plateformes. Vous avez Facebook qui a annoncé maintenant qu'ils transmettraient à la justice les adresses IP, c'est-à-dire ce qui permet de tracer l'ordinateur des personnes qui sont à l'origine des menaces, qui vont les transmettre à la justice. Moi, ce que je veux, c'est que quand il y a des contenus haineux, quand il y a des contenus menaçants, on puisse tracer les auteurs et les sanctionner. Mais pas sanctionner tous les utilisateurs d'Internet sur la question de l'anonymat qui peut aussi être une forme de liberté pour des personnes qui vivent par exemple quelque chose de très difficile, des violences, ont besoin de se confier, de demander de l'aide. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est important de le maintenir.
Merci à vous, Gabriel Attal.
Merci.